Seigneur, nous te remercions pour ces moments que tu as mis à part pour nous. Que chacun de nous soit dans de bonnes dispositions pour te rendre un culte. Que tout soit fait à ta gloire. Amen.
Pour partager ce moment, on lira tout d'abord dans 1 Corinthiens 11, les versets 23 à 29. 1 Corinthiens 11, 23 à 29. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Ce texte, nous le connaissons par cœur et il est à la base du moment que nous allons partager. Ce sont les mêmes versets chaque dimanche. Et le risque ou le danger qui peut apparaître, c'est celui de participer à la scène par habitude. Sans en mesurer pleinement la portée, ce qu'elle représente, et sans une véritable reconnaissance envers notre Seigneur pour son sacrifice à la croix. Alors l'habitude, elle a un côté positif, c'est celui de garder la constance dans une action, dans ce que l'on fait. Mais si ce repas devenait parfois une habitude, dans le sens d'une routine, en le banalisant, il va perdre en grande partie sa signification et peut nous amener à y participer de façon superficielle. Peut-être parce que nous entendons souvent les mêmes versets, donc sentiment de déjà-vu, de déjà-entendu, et puis que c'est le moment prévu dans le déroulement du culte avant le message. Cela peut nous arriver sans que l'on s'en aperçoive vraiment. Mais chaque fois que nous partageons ce repas, nous accomplissons un acte que Jésus a lui-même institué. Et nous devons le faire avec foi et discernement, sinon nous ne rencontrons pas vraiment notre Seigneur à ce moment-là. Et les versets 28 et 29 que l'on vient de lire nous mettent en garde. « Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. » Cela avait été rappelé dernièrement. Et prendre la scène par habitude pourrait altérer et masquer en partie ce que notre Seigneur a subi et enduré depuis Golgotha jusqu'à sa crucifixion. L'angoisse, les coups, le mépris, la liste serait longue, et on pourra remettre quelques versets devant nos yeux pour voir ce qu'il a vraiment, ce qu'il a vraiment subi, ce que la parole nous montre qu'il a subi. Dans Marc, on prendra dans Marc, Marc 14 tout d'abord. Marc 14, tout d'abord le verset 65. Quelques-uns se mirent à cracher sur lui, à lui voiler le visage et à le frapper à coups de poing en lui disant « Devine ». Et les serviteurs le reçurent en lui donnant des soufflets. C'est la première série de coups. Et puis ensuite, dans Marc 15, le verset 15, Pilate, voulant satisfaire la foule, le relâcha Barabbas. Et après avoir fait battre de verges Jésus, il le livra pour être crucifié. C'est la deuxième série de coups, si l'on peut dire. La flagellation. Et ensuite, on lira les versets 17 à 19. Ils le revêtirent de pourpre et posèrent sur sa tête une couronne d'épines qu'ils avaient tressée, puis ils se mirent à le saluer, « Salut, roi des Juifs !» Et ils lui frappaient la tête avec un roseau, crachaient sur lui, et fléchissant les genoux, ils se prosternaient devant lui. C'est la troisième série. Notre Seigneur va subir les coups. Et puis, il y a la cruauté de la couronne d'épines. Et puis ensuite, il y a la crucifixion au verset 24. Et puis ensuite, on lira du verset 29 au verset 34. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant « Et toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en trois jours, sauve-toi toi-même en descendant de la croix. » Les principaux sacrificateurs aussi, avec les scribes, se moquaient entre eux et disaient « Il a sauvé les autres, il ne peut se sauver lui-même. » Que le Christ, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix, afin que nous voyions et que nous croyons. Ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient aussi. La sixième heure étant venue, il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la neuvième heure. Et à la neuvième heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eloi, Eloi, lama sabachthani », ce qui signifie « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Voilà tout ce que notre Seigneur, tout au moins un résumé de ce que notre Seigneur a subi pour notre rachat, jusqu'à être abandonné du Père. Et la scène que nous allons partager est un moment saint, comme Dieu est saint. Ce moment doit être partagé avec foi, respect de Dieu, et en ayant conscience de la sainteté de ces instants. L'ennemi fera tout pour banaliser ce repas, en faire un moment habituel, rituel, qui ne soit plus un moment d'adoration de notre Seigneur où nous le rencontrons vraiment. Chaque moment où nous partageons la scène doit renouveler notre immense gratitude et notre reconnaissance pour ce qu'il a fait, afin que nous ayons toujours devant nos yeux la grandeur du salut offert par grâce, le pardon de nos péchés et la vie éternelle. Le but de l'ennemi est de nous faire entrer dans un mécanisme habituel, atténuant et masquant cela. Et l'habitude peut conduire à ce que nous dit Matthieu 15, verset 8, « Ce peuple m'honore des lèvres et son cœur s'est éloigné de moi. » Et puis aussi un verset dans l'Apocalypse que l'on a revu dernièrement, Apocalypse 2, verset 4, « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » L'habitude peut nous rendre aussi moins sensibles à la présence de Dieu dans nos vies, parce que la relation est entachée. Cette partie de 1 Corinthiens 11 que l'on a lu, « Faites ceci en mémoire de moi », doit nous inciter à remettre devant nos yeux chaque dimanche toute la dimension du sacrifice de Christ à la croix. Notre Seigneur nous demande une communion personnelle, profonde, avec lui chaque jour. Et dans ce cas, il y a cette promesse, si nous l'avons, cette promesse de Lamentations 2, versets 22-23, « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. » Elle se renouvelle chaque matin, ô, que ta fidélité est grande. Alors, sommes-nous dans l'habitude pour certains domaines de notre vie, de notre relation avec notre Seigneur ? 2 Corinthiens 13, verset 5 nous dit « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi, éprouvez-vous vous-même. » Et, je redis, l'ennemi cherchera toujours à dénaturer notre relation avec notre Seigneur, à la rendre semblable à d'autres domaines de notre vie où nous fonctionnons par habitude. Alors, l'habitude est décriée ici. Par contre, gardons quand même les bonnes habitudes, car la Bible encourage la persévérance pour rester dans la proximité de Dieu. C'est une habitude, une saine habitude, disons. Ce moment de la scène que nous partageons, c'est un privilège qui est accordé par Dieu et il nous rappelle le sacrifice parfait de Christ. Il fortifie notre foi dans l'attente du retour du Seigneur. Chaque fois que nous prenons ce pain et cette coupe, souvenons-nous que nous répondons à l'invitation de notre Seigneur lui-même. Une invitation qu'il nous rappelle chaque dimanche. Alors faisons-le avec une foi vivante et le désir renouvelé de rendre grâce et de glorifier celui qui a donné sa vie pour nous. Nous voulons prier. Seigneur, nous voulons te demander de nous garder, de prendre ce repas par, non pas par entière habitude, mais sans en discerner vraiment le fond. Pourquoi tu nous appelles à faire ceci en mémoire de toi. Seigneur, nous voulons te remercier de nous garder de tout égarement à ce niveau. Et puis nous voulons encore te louer et te remercier pour ton sacrifice à la croix, pour le rachat de nos péchés et pour la vie éternelle. Amen.
Alors le conseil le plus célèbre donné par Winston Churchill à la jeunesse est tiré d'un discours prononcé le 29 octobre 1941 à la Harold School. Il a dit, c'est une phrase qui est restée célèbre, « Ne cédez jamais, 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 en rien, qu'il s'agisse de choses grandes ou petites. » Et son message était clair, donc faire preuve de persévérance, de fermeté, en tout temps et en toutes circonstances. Et si on prend la parole, l'apôtre Pierre, il conclut sa seconde épître avec un conseil à peu près identique, bien qu'exprimé en d'autres termes. Alors on va lire donc les deux derniers versets de la seconde épître de Pierre, 2 Pierre 3, donc versets 17 et 18. « Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Et ces deux versets, qui sont donc en forme de conclusion, ils sonnent comme un dernier avertissement que donne l'apôtre à ses lecteurs. Dans ses épîtres, Pierre, il a enseigné, il a averti, il a conseillé les chrétiens pour qu'ils grandissent dans la connaissance de Dieu, mais il n'ignore pas les dangers, les tentations, les épreuves qui risquent de faire chuter ses frères. Et aussi, il conclut par ce dernier cri du cœur, on peut dire presque une supplication, à demeurer ferme, attaché au Seigneur et à grandir dans sa grâce. Alors, les deux premières épîtres commencent par une salutation qui fait référence justement à la grâce et à la paix, pas sans, d'ailleurs sans donner quelques conditions. Et on peut lire l'introduction des deux épîtres de Pierre. On peut prendre dans la première, 1 Pierre 1, des versets 1 à 2. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie, la Bithynie, et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Bien sûr, comme c'est précisé dans ce texte, ne peuvent être au bénéfice de la grâce de Dieu que ceux qui sont au bénéfice de l'œuvre du Seigneur Jésus, de ceux qui participent à l'aspersion du sang de Jésus, comme nous l'avons lu. Et puis il y a dans ce verset un mot sur lequel on passerait volontiers rapidement, c'est le mot « obéissance ». Obéissant au Seigneur, à sa parole. Là, tout est lié, la grâce, la paix, ne seront multipliées, ne pourront l'être sans l'obéissance au Seigneur. Et au premier chapitre de la seconde épître, je vous lis juste le verset, verset 2, là il précise sa pensée, « Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu » et de notre Seigneur. Connaître Dieu, rester proche du Seigneur, lui rester attaché, pour que la grâce et la paix puissent être multipliées. Alors, si nous sommes certainement d'accord avec ce que nous venons de lire, forcément, c'est la parole, force est de constater, en tout cas pour moi, je ne sais pas pour vous, que parfois, l'obéissance n'est peut-être pas exactement ce qu'elle devrait être. La connaissance du Seigneur reste bien imparfaite, et puis que la croissance dans la grâce du Seigneur pourrait être plus rapide et plus profonde. Et Pierre, qui est un homme d'expérience, il connaît les dangers qui guettent des chrétiens qui peuvent ralentir leur marche et les faire chuter. Et tout au long de son épître, de ses écrits, il va les mettre en garde et les avertir. Alors les dangers, ils sont multiples. Par exemple, en 2 Pierre 1, il parle des dangers qui peuvent venir de l'intérieur. La vie chrétienne qui pourrait devenir comme une coquille vide, une religion simplement de forme, 2 Pierre 1, versets 5 à 9, où il conseille les chrétiens de faire tous leurs efforts pour joindre à la foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance la patience la piété l'amour fraternel la charité. Et il précise, si ces choses sont en vous, ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisives ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais, l'avertissement, celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, il ne voit pas de loin, il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Alors, est-ce qu'on peut oublier la purification de ses péchés? Oublier que le Seigneur a fait toutes choses nouvelles? Oublier ou tenir pour peu de choses ce qu'il a fait pour moi en m'accordant le pardon, une vie nouvelle, un salut gratuit, immérité? D'après la parole, oui, c'est possible. Et l'apôtre nous donne ce conseil. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. On pourrait reformuler ainsi. Prenez votre part dans l'œuvre de Dieu, soyez engagés, actifs et déterminés. Les attaques peuvent venir aussi de l'extérieur. À plusieurs reprises, Pierre, dans ses épîtres, évoque les fausses doctrines qui rapidement ont envahi l'Église. Par exemple, 2 Pierre 2, verset 1, « Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Et je crois que nous sommes particulièrement concernés à notre époque où toutes sortes d'évangiles ont fait leur apparition. On veut un christianisme qui réponde aux attentes du monde, finalement, qui soit dans l'air du temps, qui assure une vie facile, de l'argent et la santé, et plus encore, mais dans lequel l'obéissance à la parole de Dieu n'a plus beaucoup de place. Et finalement, Pierre évoque aussi, au verset 8 du chapitre 5, « Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Donc ainsi, conscient des dangers qui menacent les chrétiens dans leur marche avec le Seigneur, l'apôtre exhorte à être ferme. Fermeté qui doit être sans cesse renouvelée, parce que chaque jour nous sommes confrontés à la tentation, à diverses situations dans lesquelles il y a une lutte, il y a un combat. Or, il s'agit rarement de situations très exceptionnelles. Nous ne vivons pas, pour l'instant, dans un pays où suivre le Seigneur peut valoir la prison, la mort. Et nous sommes souvent encouragés, admiratifs, par l'exemple de ceux qui font face à ces situations. Néanmoins, notre vie est faite chaque jour d'une multitude de choix, de situations, qui montrent quelle place le Seigneur a dans notre vie. Quelle priorité lorsqu'il faut venir au culte ou à l'étude biblique. Un frère récemment m'a raconté qu'il y a quelques années, aux États-Unis, l'heure du culte avait été modifiée pour que les chrétiens puissent suivre le nouveau feuilleton à la mode. Voilà, dans ce que l'on peut trouver. Quelle est la priorité? Quelle est notre priorité le matin? Est-ce que c'est la parole de Dieu ou mon oreiller? Ça, faut se poser la question. Quelle priorité lorsque vient l'heure de prier? Voilà, et on pourrait continuer aussi à l'infini. Alors non seulement Pierre avertit les chrétiens des dangers, des pièges qui sont sur la route, mais il va aussi donner des exhortations et des bons conseils pour une marche victorieuse. Alors le premier de ces, j'ai pris quelques-uns, il y en a davantage, mais première exhortation, en 1 Pierre 1, 14 à 16, 1 Pierre 1, 14, 16, il nous dit « Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite. Selon ce qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. » On sait ce que ça signifie, saint, c'est être séparé, être mis à part pour le Seigneur, c'est-à-dire avoir une vie différente qui prend le Seigneur pour modèle, n'étant plus conduit par mes propres convoitises, mais simplement par le désir de suivre et de plaire au Seigneur. On peut trouver une deuxième exhortation en 1 Pierre 1, verset 22. « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. » Alors, je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais dans ce domaine, j'ai besoin du secours du Seigneur pour que ce verset puisse devenir une réalité. Il va très loin. Il a des exigences extrêmement élevées, un standard élevé, un amour fraternel sincère, c'est-à-dire total, vrai, désintéressé. Aimez-vous ardemment. Il n'est pas dit beaucoup. Ardemment, c'est plus encore. C'est le maximum. Et de tout votre cœur. Pour quelle raison? Le Seigneur le précise, c'est à cela... Jean 13, 35, là tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Là, donc aussi une preuve que le Seigneur a sa juste place dans nos cœurs si cet amour fraternel est sincère. Une troisième exhortation qu'on peut trouver dans la première épître de Pierre, chapitre 2, verset 2, « Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que vous croissiez pour le salut. » Et dans le commentaire du disciple, ce verset est commenté ainsi. « Une obligation qui découle de notre nouvelle naissance est une soif insatiable du lait spirituel et pur de la parole. Les péchés mentionnés au verset précédent étouffent la croissance spirituelle, tandis que la bonne parole de Dieu la nourrit. » L'expression « comme des enfants nouveau-nés » ne signifie pas forcément que les lecteurs de Pierre soient de jeunes convertis. Ils peuvent avoir été sauvés depuis plusieurs années. Toutefois, qu'ils soient jeunes ou plus anciens dans la foi, ils devraient avoir soif de la parole tout comme les nouveau-nés pleurent pour avoir du lait. Nous avons une idée de la soif d'un bébé en bonne santé à la façon impatiente, agressive, déterminée avec laquelle il tète et boit son lait. Par le lait pur de la parole, un croyant grandit spirituellement. Le but ultime de toute croissance spirituelle ici-bas est la conformité à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà la troisième exhortation, rester attaché à la parole de Dieu. Or ainsi, tout au long de ces lettres, il va donc présenter les dangers de la route et donner de beaux conseils pour que nous puissions demeurer fermes et victorieux. Et en quelque sorte, il conclut en disant « Vous connaissez le chemin, maintenant marchez-y ». Et on peut remarquer que Pierre n'est pas le seul à exhorter de la sorte. Paul également, dans plusieurs de ses épîtres, rappelle aux chrétiens combien il est important que leur vie spirituelle soit fermement attachée, reste fermement attachée au Seigneur. Je peux vous lire Philippiens 1, 27, où Paul écrit « Conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends dire de vous que vous demeurez ferme, dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile. » Donc Paul, comme Pierre, exhorte les fidèles, les disciples, à demeurer fermes, d'un même cœur, et il rappelle que nous sommes dans un combat, il y a des ennemis intérieurs, extérieurs, et qu'on ne gagne pas un combat sans un entraînement permanent. C'est ce qu'il écrit à Timothée, vous connaissez très bien ce passage, mais je vais quand même vous lire quelques versets de 2 Timothée 2, 1 à 7, où il exhorte Timothée ainsi, « Toi, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. » Donc soldat, athlètes, laboureurs, tous sont des exemples d'hommes patients et surtout persévérants dans leur activité. Alors je ne sais pas si vous vous sentez plutôt soldat, prêt à obéir aux ordres du général en chef, soldat qui ne s'embarrasse pas des affaires de la vie, affaires mondaines, soldat qui est en service actif, toujours prêt à recevoir les ordres du quartier général, qui a le désir de plaire à celui qui l'a enrôlé. Peut-être vous avez plus l'âme d'un athlète, qui pratique avec soin toutes sortes d'exercices spirituels pour être au meilleur de sa forme. Nous savons que si l'athlète qui veut une récompense doit combattre suivant les règles définies, alors peut-être on peut avoir l'âme d'un laboureur qui patiemment, année après année, va travailler dans le champ du Seigneur. Mais face à ces textes, on peut aussi avoir une réaction de découragement. Se sentant ni l'âme d'un soldat, ou encore moins celui d'un athlète, on peut considérer que Paul peut-être s'adresse à des chrétiens matures, avancés dans leur vie chrétienne, qui ont une grande expérience avec le Seigneur. Mais si nous prenons ce qu'il écrit à l'église de Corinthe, et nous savons que les Corinthiens n'étaient pas un modèle, que leur témoignage était laissé un peu à désirer, et pourtant il n'hésite pas Paul à les exhorter ainsi. 1 Corinthiens 15, 58. « Mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. » Et là, l'apôtre y dirige en quelque sorte nos regards sur la perspective glorieuse de la résurrection. Et c'est une vérité qui change tout. Elle nourrit l'espoir, la fermeté nous rend capables d'affronter toutes les circonstances, normalement. Le travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Et nous savons que nous ne sommes pas non plus sans équipement, puisque dans Éphésiens, il nous est dit « Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. » Nous avons à disposition tout un équipement taillé sur mesure, offert gratuitement à chaque croyant. Ma seule responsabilité, c'est de m'en revêtir et de l'utiliser. Et ainsi, nous sommes armés pour l'exhortation suivante, 1 Corinthiens 16, « Veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous. » Alors la parole dont évidemment beaucoup n'auraient pu prendre des exemples d'hommes, de femmes qui, dans des circonstances diverses, parfois face à une forte opposition, ont tenu ferme, du côté du Seigneur. Et on peut découvrir en étudiant leur vie la relation entre leur position de foi et ce que Dieu a été capable de faire à travers eux. Et c'est ce que confirme, entre autres, la description qui est faite de ces hommes de foi dans Hébreux 11. Concernant Moïse, au verset 27, on lit « C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme, comme voyant ce qui est invisible. » Et au verset 6 du chapitre 3 d'Hébreux, nous sommes inclus parce qu'il est écrit « Christ est fidèle sur sa maison, et sa maison, c'est nous, il y a une condition, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. » Et puis la parole est pleine de promesses, on aime les promesses. Elles sont souvent associées à des conditions, et la Bible en contient pour celui qui marche fermement avec le Seigneur. Par exemple, dans Isaïe 26,3, il est dit « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. » Et qui ne veut pas de paix? Moi, je ne connais personne, enfin, je n'en ai pas rencontré, qui préfère vivre dans le trouble et la crainte. Nous avons ici le secret pour vivre dans la paix de Dieu, rester ferme dans la marche avec le Seigneur. Ou dans Deutéronome 28, il faudrait presque lire tout le chapitre, je vous invite à le faire, mais il est dit « Voici les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront au partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans les champs, etc. » Et il y a toute une description des grandes bénédictions que le Seigneur est prêt à accorder à celui qui est fidèle. Et puis, une clé pour rester ferme, c'est Actes 2, 42, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Et si l'Église, dans les premiers temps, s'est développée, et si les chrétiens ont pu aller victorieusement, c'est justement parce qu'ils avaient, ils mettaient en pratique cette parole, qu'on pourrait résumer simplement par vie d'Église. La fraction du pain, l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, les prières. Et ça me rappelle une petite histoire d'un frère était allé visiter un homme qu'on ne voyait plus dans l'église. Il avait quitté, sa vie spirituelle était devenue assez terne. Et ce frère est allé rendre visite donc à cet homme. Et puis, ils sont assis dans le salon, il y avait le feu dans la cheminée, et le frère qui faisait la visite n'a rien dit, mais il s'est levé. Il a pris un tison dans la cheminée, qu'il a sorti du feu. Il était se rasseoir. Et puis évidemment, il est devenu de plus en plus froid, et de rouge et de vif qu'il était, ce tison est devenu gris. Il s'est presque éteint. Et le frère s'est relevé, a été le remettre dans le feu, est venu se rasseoir. Et celui qui... la leçon a été comprise lorsqu'on sort de l'église, de là où il y a la vie, où il y a le feu. Eh ben, on se refroidit et on perd la vie. C'est une petite illustration. Tout à l'heure, on a lu un verset de 1 Pierre 5, 8 qui nous dit « Soyez sobres, veillez ». Veiller, être ferme, c'est un petit peu un synonyme. On pourrait traduire cette expression par « Tenez-vous sur vos gardes ». La veille, ça fait référence à la surveillance. Nous sommes appelés à avoir un esprit critique, à surveiller. Ce qui nous est, comme les chrétiens de Béret, à examiner dans les Écritures, c'est ce que l'on nous dit, est exact, de ne pas nous laisser séduire par les fausses doctrines. On peut, ça m'est arrivé, il y a des gens qui savent, ils savent mieux, ils sont prêts à vous donner des conseils. J'étais à Besançon dans une église il y a quelques bons mois, et après une présentation pour les Gédéons, une dame est venue me trouver en me disant « Je suis animatrice dans une radio chrétienne, je crois, de Besançon. Il faut absolument vous... Je vais vous interviewer. » Je lui ai dit « Écoutez, ce n'est pas trop notre habitude de répondre aux interviews, mais je vais prier pour ça. » « Ah oui, mais ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine de prier. Je suis rempli du Saint-Esprit. Si je vous le demande, c'est que c'est la volonté de Dieu. » Non, ce n'est pas ce que nous enseigne la parole. On doit aussi examiner les choses. Et puis veiller sur notre conduite, c'est ce que nous dit Proverbe 16, 17. Les chemins des hommes droits, c'est d'éviter le mal. Celui qui garde son âme veille sur sa voie. Alors prenons le temps de réfléchir, de lire la parole, de nous examiner avec les talons de la parole de Dieu. Prenez garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages, nous dit Paul dans Éphésiens. Et puis, moi, j'aimerais finir par deux belles promesses qui nous sont données, une dans les psaumes, une dans Proverbes. Psaume 50, 23, « Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. Celui qui veille sur sa voie, à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. » Et Proverbe 8, 34, « Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour sur mes portes et qui en garde les poteaux, car celui qui me trouve a trouvé la vie et il obtient la faveur de l'Éternel. » Alors que le Seigneur, cette semaine, nous trouve veillant et ferme dans ce qu'il nous a montré.
J'étais frappé parce qu'il nous a été rappelé. Au départ, il nous a été dit que nous avons, parce que c'est parlé des chrétiens, Pierre, été élus afin de devenir obéissants. C'est qu'on n'y est pas au début, puisqu'on doit y devenir. Et le Seigneur Jésus, il s'est rendu obéissant. Il a pris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Alors, on a eu un enseignement, on a une route qui est tracée pour cette semaine. Alors, ma foi, maintenant, à nous d'obéir.
Nous te remercions, notre Dieu, de nous avoir encore parlé maintenant par ta parole. Et cette parole avait un accent nouveau encore pour chacun de nous. Être dans tes voies, écouter ta voix, t'obéir. Et Seigneur, pour moi le premier, peut-être pour chacun s'il le veut, on peut considérer que l'ennemi, chaque matin, fait donner la priorité aux activités, travail ou autres que nous devrons faire, mais pas avec toi. Et comme a dit Pascal, est-ce qu'on aime mieux notre oreiller le matin ? Seigneur, montre-moi à moi à prendre le temps chaque matin pour la méditation de ta parole et pour la prière. Et là, nous pouvons être sûrs que tu donneras une grande bénédiction. On te prie pour ceux qui sont malades, mais on te remercie ce matin de pouvoir commencer la semaine véritablement avec toi. Amen.